mass destruction. Other people's pain takes my mind off you. Night of puppies, when they're roadkill, they took you to live, took you to live, took you like you.
Bonsoir à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Rock City, le 9e Rock City. Et vous n'êtes pas sans savoir que demain, puisque nous sommes le mardi 13 février, demain c'est la Saint-Valentin, le fameux traditionnel 14 février. Et bien donc ce soir, on fait un Rock City spécial Saint-Valentin, ou peut-être avec un petit twist, hein, comme vous avez pu le deviner avec ce morceau que vous venez d'entendre, morceau de Gwar qui s'appelle « Hate Love Songs ». Un morceau qui est sorti sur leur album de 97 qui s'appelait Carnival of Chaos. À savoir que Gwar, c'est un groupe entièrement masqué, particulièrement étrange, pour dire le moins, avec des thèmes un petit peu borderline, un peu limite. D'ailleurs, pour les fans de comics qui écoutent habituellement l'émission et qui écoutent le Rock City aussi, Gwar a sorti récemment un comic chez Dynamite, et c'était une immonde daube. Mais bon, bref, ça c'est un autre problème. La petite particularité sur ce morceau de Hate Love Song, donc de l'album Carnival of Chaos, c'est que ce morceau-là était chanté notamment par Beefcake de Mighty, qui d'habitude s'occupait des back vocals avec d'autres membres du groupe. Mais le chanteur principal, Odorous Ungurus, puisqu'ils ont tous des pseudos, eh bien justement n'a pas pu chanter ce morceau-là, et c'est Beefcake de Mighty qui s'en est occupé. Dernière petite anecdote sur ce groupe, et surtout sur cet album d'ailleurs, c'était leur 6e album, mine de rien, et c'était un album assez expérimental, ils étaient dans leur phase assez expérimentale, et celui-ci c'est le pinacle de l'expérimental. On va retrouver des morceaux heavy sur cet album, mais aussi des morceaux plus typés hard rock, country ou même jazz. Pourquoi pas, on teste un petit peu tout, avec toujours l'ambiance et le ton humoristique très décalé de Gwar, à découvrir pour ceux qui connaîtraient pas ou qui ont envie d'avoir des choses un petit peu différentes. C'est donc une émission spéciale Valentin, ou plutôt, j'ai envie de l'appeler anti-Saint-Valentin finalement. Si l'amour ça vous gonfle, ça vous dérange, ce côté mielleux, ce côté commercial de cette fête, eh bien on va fêter l'amour, mais mal, très très mal ce soir. On écoute le générique. Et donc c'est parti pour cet anti-Saint-Valentin. Alors je vous ai réservé un programme assez éclectique, il y a un petit peu de tout. On reste dans le Rock City, donc ça va être principalement hard rock, metal évidemment. Mais il y aura un petit peu de tout, on va éviter les traditionnelles balades. J'avais pas envie de me taper une émission spéciale balade, ça craint. Toutes ces chansons d'amour dégoulinantes, on va en avoir déjà plein la gueule demain. Ben, ce soir, on fait l'inverse, on célèbre le non-amour, ou l'amour perdu, ou l'amour dégueulasse, ou des choses bien pires, vous verrez tout à l'heure. Et on va continuer donc sur ce thème avec, alors c'est une vision un petit peu, c'est une sélection, il y a plein d'autres morceaux qui auraient pu aller. Je peux pas faire une émission de 3 heures parce que je vais pas avoir le temps et que j'ai pas eu assez de temps de préparation finalement là-dessus. J'ai décidé cette émission vraiment à la dernière minute, jeudi dernier en fait, juste avant le Comics Weekly. C'est pour ça que j'ai pu l'annoncer en direct lors du Comics Weekly, mais ça s'est décidé vraiment dans la journée. Donc vraiment c'est l'émission qui a pas de recul quoi. Du coup, petite sélection. N'hésitez pas à proposer vos titres aussi, les titres que j'aurais pu rater ou que vous pensez qu'ils pourraient coller dans ce thème-là. Et même si ça sort de la sphère métal ou hard rock, hein, dans Rock City, on est ouvert à tout. Principalement en émission métal, évidemment, mais toutes les autres suggestions sont bonnes à prendre. Du coup, on va écouter un morceau de Metallica maintenant. Alors, un morceau de Metallica, oui et non, puisqu'il s'agit d'une reprise. Il s'agit d'une reprise d'un morceau des Misfits. Ce morceau, Die Die My Darling, était sorti sur l'album de Metallica Garage Inc. en 98. Et à la base, c'est un morceau des Misfits qui était sorti sur leur album Earth AD, qui était sorti en 83. Mais à noter que le morceau n'était pas présent sur la première version de l'album, qui était sorti en vinyle, avec donc deux faces, etc. C'est lors du second pressage, plutôt cassette et CD, que trois pistes supplémentaires ont été ajoutées, dont ce Die Die My Darling. Et la reprise hein, de Metallica a été vraiment très très bonne, d'ailleurs de l'aveu même d'un des membres du groupe, je crois que c'était le bassiste, il disait quand il a entendu la cover, il était ultra impressionné de ce qu'ils avaient fait du morceau, tout comment ils l'avaient transformé, et c'est une cover qu'il à laquelle il donne 100% de respect et qu'il accepte vraiment complètement quoi. Bon, même si de toute façon ils ont bien touché des droits, donc ils vont pas forcément se plaindre. Ce morceau donc de Die Die My Darling est présent sur le premier CD de Garage Inc. Le Garage Inc. c'était un album uniquement de covers par Metallica. Et ils avaient fait deux disques. Le premier disque était des nouvelles reprises et sur le premier disque c'était un disque uniquement de reprises bien sûr, hein, c'est le thème de l'album. Et sur le deuxième, ils avaient ressorti un de leurs EP qui s'appelait The Five, c'est $5.98 EP, un truc comme ça, un nom assez assez long. Où ils avaient fait que des reprises justement. Il y avait cinq reprises qu'ils ont réintégrées sur le deuxième album. Puis enfin sur le deuxième disque de cet album, puisque celui-ci était totalement épuisé, totalement introuvable, et puis ils ont rajouté d'autres morceaux, des morceaux qui jouent en concert, des choses comme ça. À noter que Die Die My Darling est également sorti en single en juin 99, avec pas mal de versions, pas mal de pressages différents en fonction des régions. Mais donc il a eu le droit aussi à un single par Metallica, et donc qui à la base était une version des Misfits, dont Die Die My Darling, je pense que ça se passe de commentaires, hein, voilà, crève mon amour, c'est beau pour la Saint-Valentin. Donc Die Die My Darling de Metallica, ou plutôt des Misfits, mais repris par Metallica. Voilà, comment fêter l'amour dignement? Bah, crève mon amour, c'est tellement beau, c'est tellement poétique, c'est voilà, c'est de l'amour qui coule pur jus, quoi. Mais l'amour c'est bien, mais l'argent c'est mieux quand même. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux? Bah, une fille avec plein d'argent. C'est ce que nous chante Deep Purple, en tout cas dans ce morceau qui s'appelle Love Don't Mean a Thing. C'est le rêve absolu total, hein, d'avoir une fille avec plein d'argent, parce que bah, tout ce qu'il a besoin, lui, c'est d'argent finalement. Comment lui faire des cadeaux? Bah, avec de l'argent. Donc bah, il faut plein d'argent. Et donc si elle a de l'argent pour qu'il lui fasse des cadeaux avec, c'est pas plus mal. Ce morceau était sorti sur l'album Stormbringer de 74, hein, je vous avais dit qu'on allait passer par différents styles, donc là c'est autre chose évidemment. 74, c'était la troisième formation de Deep Purple, hein, un groupe qui a une histoire assez compliquée avec pas mal de changements de line-up. On a eu le gros line-up bien classique, hein, qui était le fameux Mark II, qui a duré pas mal d'années, et bah justement, à la fin 73, le chanteur Ian Gillan ainsi que le bassiste Roger Glover sont partis du groupe. Bon, le bassiste a quand même été gentiment viré par le guitariste Richie Blackmore, ce qui l'avait menacé de quitter le groupe, et comme il était un des succès phénoménaux du groupe, hein, ce guitariste, eh bien, il a eu raison, et Roger Glover est parti. Et donc, mi-73, il se retrouve sans chanteur et sans bassiste. Il va donc falloir retrouver à nouveau des membres pour continuer. Et eh bien, ils vont trouver un nouveau bassiste en la personne de Glenn Hughes, qui jouait dans le groupe Trapeze. Mais Glenn Hughes avait un petit souci, c'est qu'il exigeait de tenir le chant. Et pour le groupe, ça n'allait pas de faire une formation à quatre seulement. Ils ont accepté, mais qu'il fasse les backing vocals, notamment. Et ils ont cherché un nouveau chanteur. Et après avoir proposé le job à Paul Rogers, qui venait de quitter le groupe Free, il a décliné la proposition et celui-ci a été formé le groupe Bad Company, et ils ont engagé finalement David Coverdale, qui était pas très très connu, qui avait une petite carrière assez légère. Il avait un petit groupe qui s'appelait The Government, il avait déjà assuré une des premières parties du groupe, et c'est comme ça qu'ils le connaissaient. Ils l'ont proposé le job et celui-ci l'a accepté. On a donc David Coverdale qui est au chant principal et des backing vocals de Glenn Hughes, et d'ailleurs on entend les deux chanter sur ce morceau. Stormbringer, c'est le deuxième album de cette nouvelle formation. Donc Love Don't Mean a Thing, où l'on parle d'amour mais surtout d'argent, et l'argent ça vaut toujours plus que l'amour. Now if I see assez tranquille, un petit Deep Purple 74, c'est tout doux, c'est tout délicat. Et justement, on va changer d'ambiance, histoire de diversifier un petit peu tout ça, de faire que vous restiez un petit peu sur vos gardes, puisqu'on va passer à tout autre chose, un morceau de 2005 qui s'appelle Love, point d'interrogation. C'est un morceau de Strapping Young Lad. Alors si vous ne connaissez pas Strapping Young Lad, c'est un groupe, un projet de Devin Townsend. Devin Townsend, c'est un guitariste, notamment guitariste, mais c'est un multi-instrumentiste très talentueux. Il a notamment travaillé pour Steve Vai, ce qui n'est pas rien. Et Strapping Young Lad, c'était son exutoire. C'était son moyen de déverser toute la rage, toute la haine, toute l'énergie qu'il pouvait avoir. Et justement, là, on est dans le paroxysme. Alien, c'est le nom de l'album sur lequel est sorti ce morceau en 2005. C'est l'avant-dernier album du groupe. Et c'est un album pour lequel il avait composé de façon assez étrange, puisqu'il avait arrêté de prendre ses médicaments. Devin Townsend est quelqu'un de bipolaire. Hein, il a été diagnostiqué bipolaire. Il a pas mal de médicaments à prendre, bah, justement, pour garder tout ce côté... Bien au chaud et que tout aille bien dans sa vie. Et pour pouvoir composer cet album de Strapping Young Lad, il avait décidé d'arrêter de prendre ses médicaments afin de faire ressortir des choses plus sombres, plus noires, plus glauques. Et sur ce morceau Love, il nous parle notamment de qu'est-ce qu'est l'amour finalement. Il le dit dès le début, est-ce que l'amour n'est pas un moyen juste de se sentir moins seul? C'est assez assez sombre quand on y pense, de le voir comme ça. Et parce que l'amour n'est pas juste un moyen de contrôler l'autre, avoir plus de contrôle sur quelqu'un, puisqu'on peut pas forcément avoir autant de contrôle sur soi. C'est assez assez analytique de sa propre part. La chose assez marrante d'ailleurs, parce que j'ai découvert ça il y a quelques jours, hein, quand j'ai préparé cette émission. Le morceau est revenu pas mal sur le devant de la scène ces dernières semaines, puisque le groupe Machine Head sort un nouvel album bientôt, qui s'appelle Catharsis, et le premier single s'appelle Beyond the Pale. Le single est sorti fin janvier, donc c'est encore assez récent, et justement tout le monde a sursauté, puisque le riff de Beyond the Pale est quasiment le même que le riff d'intro de Love, le morceau de Strapping Young Lad. Donc justement, tout le monde a accusé Rob Flynn, hein, le créateur de Machine Head et le compositeur principal de Machine Head, de plagiat évidemment. Et justement, Devin Townsend s'est exprimé sur Twitter et il a répondu à ça en disant que justement, tout le monde lui a posé la question sur les similarités du riff. Et c'est vrai que quand t'écoutes les deux, tu peux pas le nier, il y a quand même une grosse similarité, c'est très 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 proche. Et il lui dit clairement, je m'en fous en fait. J'ai écrit des riffs toute ma vie qui ressemblait à quelque chose d'autre. Voilà, et il a utilisé des thèmes qui provenaient d'autres albums, de films, de BO, de plein de choses. Et justement, l'art, c'est faire aussi des collages de différentes expériences. Et donc, pour lui, il ne voit absolument pas... il voit pas le mal à ça. Il est certain, il connaît bien le Rob Flynn de Machine Head. Il sait très bien que c'est absolument pas de la copie. C'est simplement que c'est ce qui l'a inspiré. Donc, en gros, il en a rien à foutre. Il s'en fout. Et Rob Flynn a été justement très touché de sa réponse. Et voilà, donc c'est assez marrant de voir que tous les musiciens sont pas juste là pour dire « Ah, c'est un plagiat de ce que j'ai copié, donne-moi plein de sous !» On écoute donc le morceau Love et prenez une bonne dose de sentiments noirs avec Strapping Young Lad. Attention, baissez un peu les enceintes, c'est assez violent, c'est assez fort. Si vous avez des gens pas habitués derrière, ça risque de vous faire assez mal aux oreilles. Après cette dose de violence et de cris et de rage, même si la voix de Devin Townsend est une voix magnifique, il est capable de faire des chants clairs monstrueux et des cris gutturaux les plus terrifiants de ce que j'ai pu entendre. Quelle maîtrise de son organe, et je parle bien sûr de ses cordes vocales et non pas du reste. On va se calmer un petit peu, on va écouter un truc plus sage. Vous connaissez sûrement tous ce morceau. On va parler de Puddle of Mudd maintenant. Puddle of Mudd, c'est un groupe américain qui s'est formé en 91, mouvance grunge, post-grunge, hein, voilà. Et premier album sorti en 94, pas tout jeune mine de rien. Et ce morceau vient de leur troisième album Come Clean, qui était sorti en 2001, et c'est leur plus gros succès, clairement. Cette chanson qui s'appelle She Hates Me, c'est ce qui a marqué le plus hein, l'esprit des gens et qui a été multi diffusé à la radio et que vous pouvez probablement entendre de temps en temps dans certaines radios qui diffusent de la musique autre que la soupe que l'on a habituellement. À noter que Puddle of Mudd a vraiment éclaté niveau succès avec ça. Ils auront d'ailleurs été même choisis avec un autre morceau qui s'appelait Control pour être le thème du Survivor Series de 2001. Voilà, petit clin d'œil aux fans de catch, évidemment. Et quand la WWE choisit un artiste, c'est parce que c'est un artiste qui médiatiquement fait parler un minimum, quoi. Donc le groupe est toujours actif à l'heure actuelle, donc depuis 91, mine de rien, ça fait aussi un sacré paquet de temps, même si leur dernier album en réalité n'est sorti qu'en 2011, et en plus c'était un album de cover, leur dernier album de matos originaux est sorti en 2009. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas fait d'album, ils continuent de faire des tournées, ils travaillent actuellement sur leur 7e album, qu'ils avaient annoncé déjà en 2014, ils ont sorti de mémoire un single en 2016, mais l'album n'est toujours pas sorti. Alors je ne sais pas s'il y a une date de sortie prévue en 2018, je vous avoue que c'est pas forcément un groupe que j'écoute tous les jours. Mais ce morceau, She Hates Me, est vraiment, vraiment un classique aujourd'hui. Tout simple, hein, on est sur l'émission de l'amour, donc l'amour distordu en tout cas, et ça raconte l'histoire d'un mec qui a juste saccagé sa relation et dont sa petite amie le déteste maintenant, et ce qui se comprend de toute façon. Allez, une petite dose de happy metal, on va dire ça, parce que ça met la patate et c'est très 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 joyeux comme morceau.
Met a girl, thought she was grand. Fell in love, found out firsthand. Went well for a week or two. Then it all came unglued. Been a trip I can't grip. Never thought I'd be the one who'd slip. Then I started to realize living one big lie. She fucking hates me. Trust, she fucking hates me. Love, 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 love. I tried too hard and she told my feelings like I had none and ripped them away. She was queen for about an hour. After that, shit got sour.
à une petite dose happy après ce moment love et de strapping lad assez dépressif. Et on va pas rester sur du happy, on va revenir sur du glauque et du sordide, normal. Parce que oui, les hommes peuvent détruire leurs relations, mais les femmes aussi, hein, égalité. Égalité, voilà. Et c'est ce dont va nous parler Bullet for My Valentine avec ce morceau Room 409, hein, chambre 409, traduit en français. C'est sur leur premier album The Poison qui est sorti en 2005, après deux EP assez remarqués, où ils ont pu signer directement chez Sony. Eh bien, ils ont sorti donc ce premier album qui a été un assez gros succès, qui a bien lancé leur carrière. Le groupe Bullet for My Valentine est un groupe britannique et même originaire du Pays de Galles, pour être complet. C'est pas souvent qu'on a des groupes du Pays de Galles, alors citons-le, hein, on part pas souvent du Pays de Galles, hormis pour le rugby. Donc voilà, ils produisent aussi des groupes de métal. Cette chanson de Bullet for My Valentine parle d'un mec hein, qui va découvrir bah, sa meuf en rentrant chez lui en train de le tromper, puisque il nous le décrit de façon très très pointue en nous expliquant que elle est à genoux face à lui. À vous de voir si c'est le devant ou le derrière qu'elle tend. Je laisserai votre imagination parler. Et il va nous parler de tous ces sentiments qui lui traversent l'esprit quand il voit ce genre de choses. Doit-il leur défoncer la gueule ou pas, hein. C'est un peu le thème de ce morceau. Alors attention, c'est pareil, hein, ça fait un petit peu bobo aux oreilles, ça crie un peu fort, mais c'est fait exprès. En même temps, à sa place, on crierait nous aussi. We'll be right back. ça tape, hein, ça tape, comme dans la gueule du mec à qui on aimerait taper, je pense, un petit peu tous, hein, j'imagine, on est tous un peu à cette place-là quand on se retrouve dans ce genre de situation. On va attaquer un gros morceau maintenant, on va parler de Queensryche. Queensryche, ah là là. Groupe emblématique du progressif. C'est un gros morceau là. Hein. On va parler de Operation Mindcrime, qui est leur album le plus emblématique. Hein. L'album qui est sorti en 1988. Là, c'est pareil, c'est pas tout jeune. Le morceau s'appelle I Don't Believe in Love. Hein, pour une émission anti Saint-Valentin, je pense que c'était facile de trouver. Avec ce titre-là, on était obligé de le mettre quand même. Parlons un petit peu de Operation Mindcrime. Deux minutes, histoire de donner un petit peu de substance, parce qu'écouter ce morceau juste seul, ça passe évidemment, c'est l'avantage d'avoir composé ces différents albums, enfin cet album avec différents titres que l'on peut écouter un petit peu comme ça, même si en réalité c'est un album concept, hein, qui donc raconte une histoire du début jusqu'à la fin. Alors je vais vous faire un résumé assez rapide de l'histoire, parce que c'est une histoire assez complexe. À noter d'ailleurs, hein, que pour les lives de Operation Mindcrime, les mecs jouaient l'album au complet, dans l'ordre, puisque bah c'est une histoire. Et ils avaient même enregistré un petit film, ils avaient tourné un film qui était diffusé derrière eux, en fait, en même temps, pour accompagner l'ensemble de l'histoire, ce qui est plutôt malin. Il y a d'autres groupes, hein, qui l'ont fait, mais voilà, eux, c'était assez connu. Et ils auront d'ailleurs fait, des années plus tard, Operation Mindcrime 2, qui est, selon moi, bien, bien, bien inférieur au premier. Même s'il y a des bons moments, il est bien inférieur. Bref, ce n'est pas le sujet de ce soir. On va parler donc de Operation Mindcrime. Alors, grosso modo, l'album raconte l'histoire de Nicky, qui est un mec un peu marginal, et qui devient, alors c'est dans une société un peu bizarre, hein, qui devient membre d'une organisation rebelle contre le gouvernement, qui est anarchiste, et qui est dirigée par le fameux Dr. X. Non, ce n'est pas l'ennemi de Action Man, c'est le Dr. X, c'est comme ça. Et justement, donc Dr. X va croire en Nicky, va placer ses exploits en Nicky, ou le manipuler, hein. Chacun y voit à sa façon, et il lui fait part de ses plans, qui est justement de prendre le pouvoir. C'est le fameux, et avec une opération qui s'appelle Operation Mindcrime, hein, c'est le titre de l'album. En gros, Nicky, eh bien, va devoir aller tuer différentes personnalités politiques afin de pouvoir faire dégager ces gens du gouvernement et pouvoir mettre l'État dans un chaos relatif et en profiter pour prendre le pouvoir. Et pour ce faire, le héros, donc Nicky, est alimenté en drogue par une femme qui s'appelle Sister Mary, qui est une nonne et également une ancienne prostituée dont Nicky va tomber amoureux. Ah, je vous préviens, c'est complexe, hein. Voilà, c'est un album concept, mais dans le bon sens du terme. Et Dr. X va finir par le charger d'assassiner Sister Mary afin de tester sa loyauté, mais Nicky va refuser. Il va pas pouvoir puisqu'il est tombé tellement amoureux d'elle. Malheureusement, c'est trop tard. Sister Mary va mourir, va se faire tuer et le héros finira dans un hôpital psychiatrique, hanté par tous les souvenirs des personnes qu'il a tuées. On est dans le joyeux, voilà. Hein, mais c'est du métal, vous le savez. On n'est pas là pour voir des licornes nous péter des arcs-en-ciel. Non, on est là pour du sombre et du glauque et du réfléchi d'ailleurs, parce que c'est un album qui est vraiment réfléchi. Si vous ne connaissez pas l'album Operation Mindcrime, même si le son un petit peu vieilli, date de 88, je vous encourage très très fortement à l'écouter. Un album, même s'il est prog, très accessible et vraiment très très bien construit, très très bien composé. On écoute donc le morceau I Don't Believe in Love, justement après la découverte de l'assassinat de Sister Mary et comment Nicky réagit. alors ça coupe un peu sec, hein, parce que c'est un album qui s'enchaîne, c'est un album concept, hein, je suis désolé, j'aurais pu peut-être essayer de faire un petit fade out, j'y ai pas pensé, je vous avoue. Je n'y pense que maintenant, bon, tant pis, trop tard. On va rester, oh, je vais rebondir en fait sur les paroles, hein, de I Don't Believe in Love de Queensryche, puisqu'il nous dit, hein, je ne crois pas en l'amour, ça ne vaut pas la douleur que l'on ressent. Et si on le prenait littéralement? La douleur que l'on ressent. Si on le prenait littéralement, parce que, bah, parlons d'un groupe qui glorifie le meurtre, la torture, le sadisme dans toute sa splendeur. Parlons de Cannibal Corpse. Voilà. Hein, on peut pas faire plus glauque. Alors, je vous préviens, les oreilles très sensibles. Je vous encourage, après que j'ai fini mon petit speech, à couper le son durant 2 minutes 17. Parce qu'on est dans de la violence extrême. On va parler de brutal death metal, hein, donc c'est du brutal. Même si le morceau date de 1994 et que le son n'est pas toujours optimal, je vous avoue que là, ça va vous arracher les tympans pour ceux qui ne sont pas habitués. Alors, Cannibal Corpse sont connus pour leur glorification de la mort, de la torture. Tout ceci n'est qu'une apparence, hein, c'est un héritage du shock horror, ce mouvement de rock amené notamment par des gens comme Alice Cooper, comme Kiss, etc. Le fait de choquer le public, eh bien là, ils ont poussé le bouchon très très loin, hein, Maurice, hein, très 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 loin, puisqu'on va écouter un morceau de l'album The Bleeding, qui est sorti en 94. Alors déjà, rien que le titre de l'album, The Bleeding, on sent qu'on est dans quelque chose de très sain pour l'esprit. Cette chanson répond à quelques interrogations. Qu'est-ce qui se passe quand l'amour tourne mal? Et quand un psychopathe aime, parce que les psychopathes ont le droit aussi d'avoir de l'amour, de ressentir de l'amour, bah qu'est-ce qui peut se passer quand un psychopathe aime et que ça tourne mal? Voilà, je vais vous donner le titre du morceau très prochainement. Je vais juste vous citer 2-3 titres, hein, pour la petite anecdote, de cet album, The Bleeding, et on ne va regarder que celui-ci, je vous laisserai aller voir les titres des autres, mais on a notamment des morceaux comme Stripped, Raped and Strangled, qu'on pourrait traduire littéralement par déshabillé, violé et étranglé. Vous mettez le petit E à la fin, si vous le souhaitez. Vous pouvez le laisser au masculin, ça marche très bien aussi. On a des choses comme The Pickaxe Murders, hein, les meurtres à la pioche, ou encore Forced Fed Broken Glass, donc littéralement gavé de verre pilé. La joie, l'allégresse, la beauté, voilà, les petites licornes, tout ça. On va écouter le morceau Fucked with a Knife. Celui-ci, je vous le traduis pas. Je vous laisse le découvrir. Donc, hein, pendant 2 minutes 17... Coupez le son, hein, pour les âmes sensibles, parce que là, ça va faire vraiment, vraiment très très mal. Fucked with a Knife, je crois que c'est tout à fait à propos pour la Saint-Valentin, et si ceci vous donne des idées, je ne suis pas responsable. We'll be right back. Et pour tous ceux qui n'ont pas compris le chant, je vous laisserai le soin d'aller voir vous-même les paroles, puisque j'ai pas très très envie de vous les traduire à la volée comme ça, c'est un peu trop sale. On va se détendre, on va revenir à du plus écoutable et du plus gentil pour les oreilles un peu moins habituées, et d'ailleurs un très bon morceau, enfin en tout cas personnellement je trouve que c'est un très bon morceau. On va parler du groupe Hailstorm. C'est un combo américain formé notamment par un frère et une sœur, mais la personne principale est la chanteuse guitariste Lizzie Hale. Et cet album, enfin le morceau est tiré de l'album pardon de Strange Case Off qui était sorti en 2012. C'est le morceau qui s'appelle Love Bites, So Do I. Dans ce morceau, en fait, Lizzie explore puisqu'elle a eu toute latitude pour écrire un peu ce qu'elle voulait de par les autres membres du groupe pour cet album de Strange Case Off. Et justement, elle a expliqué que dans ce morceau, elle souhaitait finalement essayer de remettre à niveau l'image de l'amour que nous renvoie tout ce qui est magazine, tout ce qui est magazine, et elle cite nommément hein, des magazines comme Cosmopolitan, hein, dont la réputation n'est plus à faire, et à quel point les filles, principalement, sont omnibulées par ces amours, tous ces tests psychologiques à la con, est-ce que votre homme est le bon homme pour vous, etc. Et que tout ceci, c'est de la connerie, de la saloperie, et que pour elle, c'est bien de la grosse merde. Et justement, elle avait envie de faire le point là-dessus, et après un album où elle s'en était pris pas mal, aux garçons en quelque sorte hein, dans l'album précédent, elle avait envie de remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça et s'en prendre un petit peu aussi à la façon dont les filles basiques avec de gros guillemets voient un petit peu l'amour que les médias nous renvoient, l'image de l'amour que les médias nous renvoient tout simplement. On écoute donc Love Bites, So Do I, un morceau franchement très sympathique. Si vous connaissez pas Hailstorm, je vous encourage vraiment à les découvrir, c'est vraiment très très fun et très sympa, du bon rock qui se prend pas la tête.
Girlfriend says she reads those magazines that say you failed the test. You don't have what she needs. I slither like a viper and get you by the neck. I know a thousand ways to help you forget about her. That bitch can eat her heart out. Love lies, but so do I. So do I. Foaming at the mouth. You suffered in the darkness. I'll suck the pain right out. So come and taste the reason. I'm nothing like the rest. I'll kiss you in a way you'll never forget about me. That chick can eat her. Down and chews you up and spits you out and messes with your sanity by twisting all your thoughts around. They say it's blind, they say it waits, but every time it seals your fate. Now it's got you by the balls, it won't let go until you fall. I was down and I've got all my sense, hey love, I've had enough. I found pleasure without pain, my soul you'll never die. We'll be right back.
C'était donc Hail Storm avec le morceau Love Bites, So Do I. Et on continue de parler de cette Saint-Valentin, et plutôt de cette anti-Saint-Valentin, comme j'aime à l'appeler, puisqu'on est la veille, on peut faire l'anti. C'est pour ça que j'ai diffusé et j'ai souhaité faire l'émission ce soir-là, le 13 et non pas le 14. Ça aurait été malvenu de ma part de faire une anti-Saint-Valentin le soir de la Saint-Valentin, de toute façon. On va continuer sur de la poésie à l'état pur cette fois-ci, puisqu'on va parler de Typo Négative. Typo Négative avec le morceau The Dream Is Dead. Un dernier morceau, pardon, de l'album Killing, Life Is Killing Me, excusez-moi, qui était sorti en 2003. Ça d'ailleurs, petite anecdote, The Dream Is Dead, ça devait être le nom original de l'album, et finalement, ils ont décidé de changer pour Life Is Killing Me, mais ça devait être justement le nom de cet album. C'est le sixième album du groupe Typo Négative, avant-dernier album d'ailleurs du groupe Typo Négative, et c'est le dernier album original qui est sorti sur leur label original, d'ailleurs. Le premier label qu'ils avaient eu depuis 1990, qui était Roadrunner Records. Puisque Peter Steele, hein, le chanteur après cet album, pour violence, a dû passer quelques mois en zonzon et faire une cure de désintox. Et pendant ce temps-là, eh bien leur label Roadrunner Records a sorti en 2006 un best-of qui s'appelait The Best of Typo Négative, et c'était, selon le groupe en tout cas, totalement sans leur consentement, chose qu'ils n'ont du coup pas apprécié du tout de la part de leur label, et ils ont décidé de quitter leur label en 2006, après la sortie de prison d'ailleurs de Peter Steele, mais surtout après la sortie de ce best-of. C'est un peu con quand même quand une relation de travail, surtout que bah, ils étaient là depuis 1990, depuis leur premier album, ils sont chez Roadrunner, quoi, et que le label leur ait fait un coup comme ça et que du coup ils cassent un partenariat aussi grand, je pense que la personne qui a fait ça a dû s'en mordre les doigts. Ils sont donc partis sur un autre label, SPV Records, ensuite. Ils y sortiront en 2007 le dernier album du groupe, Dead Again. Pourquoi le dernier album du groupe? Tout simplement parce que le bassiste et chanteur, Peter Steele, est mort en 2010. C'est bien triste d'ailleurs, parce que c'était un excellent compositeur, avec des thèmes glauques, hein, on est dans du... presque du doom, ça dépend des morceaux, mais on est quand même dans une ambiance très doom metal, avec des thèmes proches de la dépression, du meurtre et du suicide, mais dans le sens vraiment meurtre, dans le sens le sien, ou emmener quelqu'un avec soi, mais on est vraiment dans des thèmes sombres, quoi, des thèmes vraiment proches de la dépression, ce qui est l'apanage du doom metal. Pour ce morceau, The Dream Is Dead, eh bien, Peter Steele va nous raconter un jour de Saint-Valentin, assez triste, hein, puisque bah, il pleure chaque année ce jour-là la perte d'un amour, pas parce qu'elle est morte, mais simplement parce que cette personne l'a quitté, et bah, c'est une relation dont il ne s'est jamais remise. Donc il nous parle d'un jour de Saint-Valentin tout seul, à être devant une boîte de chocolat et une bouteille de champagne, mais seul et éploré.
We'll be right back.
Allez, je vais rajouter une dernière petite anecdote hein, sur Typo Négative et sur Peter Steele. C'est quand même le mec, comme je vous dis, un poète jusqu'au bout. Il avait sorti un album qui s'appelait The Origin of Feces. Et non, je ne me suis pas trompé, j'ai bien dit feces, hein, comme le caca et non pas species, comme l'espèce. Et sur la cover de l'album, eh bien, le monsieur avait mis la photo de son anus. Voilà, fesses écartées, photo de son anus. Hein, Et bien sûr, cette cover est très très mal passée. Elle a été assez vite retirée des bacs et remplacée par une autre pochette. Mais voilà, comme je vous dis, un véritable poète dans l'âme. On va parler de poésie justement maintenant. On va parler de Steel Panther. Voilà. Donc ça, c'est de la poésie à l'état pur. C'est le bon goût, c'est la joie de vivre, c'est l'amour. Surtout à plusieurs de Steel Panther. Alors Steel Panther, c'est un groupe de hard rock, de glam, qui est un groupe actuel et qui est un groupe un peu hommage à tous ces groupes qui ont fait la gloire de la fin des années 80 et des débuts des années 90. Voilà, c'est des mecs qui poussent le bouchon très très loin en termes d'imagerie. Alors, il y a énormément de morceaux que j'aurais pu diffuser qui allaient avec le thème de ce soir, l'anti-Saint-Valentin, puisque bah, on traite les compagnes de façon... plus ou moins agréable, joli. On avait notamment Community Property, hein, où finalement on explique que bah non mais je peux pas être la femme d'un l'homme d'une seule femme. Je suis obligé de par mon succès et de par mon groupe d'être propriété commune, hein, Community Property. Voilà, tout le monde doit se servir de moi. Donc c'est je ne te trompe pas, je suis simplement en train de faire mon boulot auprès de mes fans. Hein, voilà. Par exemple, mais j'ai choisi le morceau Gold Digging Whore, qui est de l'album Balls Out de 2011. Dans celui-ci, on nous dépeint, alors c'est un thème qui a été abordé plusieurs fois, mais jamais aussi crûment que par Steel Panther. Ça nous dépeint en fait tout simplement ce que l'on appelle en France les croqueuses de diamants. Voilà, hein, ces femmes qui se servent, enfin ces femmes, ça peut être aussi réversible hein, pour les hommes, là ils chantent pour les femmes bien sûr, puisque ce sont des hommes, mais ça peut très bien être mis dans l'autre sens. Mais donc on va rester là-dessus, n'y voyez pas un quelconque machisme de ma part, ou un anti-féminisme, ou du sexisme, ou peu importe. Il va nous parler en fait de comment bah, certaines femmes eh bien ne sont là que pour votre pognon, tout en allant se faire sauter ailleurs et en vous bouffant tout votre compte en banque, bah parce que finalement vous n'êtes là que pour leur servir de porte-monnaie, tout simplement. Gold Digging Whore, on est sur du bon glam à l'ancienne, même si c'est assez récent, ça date de 2011.
Oh!
Et on va continuer avec du glam, et du glam original cette fois-ci, pas cette ce côté inspiration et hommage qu'apporte Steel Panther au style glam, mais avec du glam pur jus, puisqu'on va parler de Motley Crue, qui est un groupe emblématique de cette époque glam, groupe qui a eu énormément de succès, groupe qui a pas mal défrayé la chronique de par leurs excès en tout genre. Un batteur du groupe très médiatiquement connu, puisqu'il s'agit de Tommy Lee, qui était pendant très longtemps le compagnon de Pamela Anderson. Voilà, groupe vraiment... c'est à l'époque, c'était vraiment les groupes stars des médias qui défrayaient les médias avec leurs frasques, mais aussi avec le nombre de personnes qu'ils avaient à leurs concerts, le nombre de CD qu'ils vendaient. C'était juste aberrant. Et donc là, on va écouter le morceau « Sick Love Song », qui est tout à propos pour cet anti-Saint-Valentin, un titre assez particulier parce qu'il est sorti en 2005 sur la compilation Red, White and Crue. Donc c'était un album de best-of sur lequel ils avaient enregistré trois titres inédits, notamment Sick Love Song, mais aussi If I Die Tomorrow, qui avait été co-écrit avec le groupe que vous connaissez sûrement, un groupe pop-punk Simple Plan. Ceux qui avaient fait, je crois, de mémoire, une chanson avec Natacha Saint-Pierre en français. Je crois que c'était Natacha Saint-Pierre, j'espère que je dis pas de conneries, entre autres. Mais ils avaient eu 2-3 succès qui les avaient bien fait exploser à l'époque. Ils ont eu donc ce morceau Sick Love Song, bien sûr, et un autre morceau qui s'appelle Street Fighting Man. Les deux premiers, donc If I Die Tomorrow et Sick Love Song, sont sorti également en single, un moyen pour ceux qui avaient déjà tous les albums de pas forcément acheter le best-of, parce que c'est quand même salaud de faire acheter un best-of avec juste 3 titres inédits quand t'es gros fan du groupe, mais bon. Le dernier n'est pas sorti, notamment parce que c'était un morceau qui est d'ailleurs une cover des Rolling Stones, et sur lequel Tommy Lee n'était pas à la batterie, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont choisi de ne pas le sortir en single. Alors, on écoute le morceau Sick Love Song de Motley Crue.
We'll be right back.
C'était donc Motley Crue, Sick Love Song, et d'ailleurs un petit bonus, je vous encourage à aller découvrir sur YouTube les vidéos de Nicky Six, qui était le bassiste du groupe, qui en fait faisait des interviews avec, puisque son show s'est arrêté là en fin d'année 2017. Des interviews avec d'autres musiciens très talentueux, hein, de la sphère rock metal évidemment, et justement ça parle beaucoup de riffs ça parle justement des riffs qui les ont inspirés, les riffs qui ont marqué leur culture, et ce sont des interviews toujours très intéressantes, très bien filmées et qui permettent de voir les icônes d'une autre façon, voir un petit peu ce qui les motive, ce qui les fait aller. Il y a des interviews avec différents membres. Il y en a avec Steve Vai, avec Slash, des Guns N' Roses, mais d'autres aussi. Hein. On retrouve notamment le guitariste de Lamb of God aussi. Enfin, donc des styles variés et divers. Et c'est vraiment des interviews très relax, enregistrées sur un canapé, l'interviewé avec sa gratte et qui joue quelques riffs. C'est franchement super cool et je vous encourage vraiment à le découvrir si vous intéressez à tout ce qui est métal et notamment tout ce qui est riff guitare. On approche de la fin de cette émission. Ce n'est pas encore le dernier morceau, mais c'est l'avant-dernier tout simplement. On va parler de Pantera avec le morceau Cemetery Gates, qui est sorti en 90 sur l'album Cowboys from Hell. L'album Cowboys from Hell étant le premier virage très heavy du groupe, hein, puisque le groupe avait sorti avant cela. C'est vrai qu'on a tendance à croire que c'est le premier album de Pantera, Cowboys from Hell, mais en réalité non. Pantera existait avant, ils avaient sorti quatre albums qu'ils ont bien oubliés, hein, puisqu'ils faisaient plutôt du hard rock et du glam à l'époque. Et Pantera avec Cowboys from Hell s'est orienté vers un virage plus heavy. Par la suite ont popularisé ce courant qui s'appelle le groove metal. Et d'ailleurs, leur carrière a explosé à partir de ce moment-là, parce qu'avant, ils étaient un groupe très 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 inconnu. Les chansons étaient que moyennes, en fait, hein, tout simplement, alors que Cowboys from Hell est une véritable pépite. Ce morceau, Cemetery Gates, eh bien, c'est l'amour et la mort, tout simplement. Comment survivre après le décès de son ou sa bien-aimé. Justement, le chanteur nous parle de son questionnement sur rejoindre l'être aimé dans l'après-vie, hein, que ce soit enfer, paradis ou autre d'ailleurs. Et c'est un morceau qui est très connu aujourd'hui, hein, de façon Cemetery Gates, et à noter d'ailleurs que c'est le morceau le plus long que Pantera n'ait jamais enregistré. Le morceau fait 7:03 et c'est le plus long de leur carrière. Ils sont plutôt des morceaux qui font autour des entre 3 et 5 minutes en moyenne. Cemetery Gates, donc bah, pour aller avec l'anti-Saint-Valentin, voilà, la perte de l'être aimé, bah, ça fait aussi partie des choses anti-Saint-Valentin et pour lesquelles on n'aime pas la Saint-Valentin. Crucified for no sins, Lemon. ultra classique hein, de Pantera, Cemetery Gates. Et on arrive au dernier morceau de cette soirée anti-Saint-Valentin. Je vais garder encore le nom du groupe et le titre pour la petite surprise pendant encore quelques secondes. Voilà, donc c'était petite sélection. Hein, je vous rappelle que bien sûr, hein, vous pouvez proposer évidemment dans les commentaires notamment hein, tous les titres que j'aurais pu oublier. J'ai essayé d'être le plus éclectique possible en diffusant un petit peu de styles différents, ne pas diffuser que du gros brutal, parce que ça aurait été trop facile, histoire de diffuser un peu de glam, un peu de vieux hard rock, un peu de métal un peu plus moderne. J'espère que cette sélection vous aura plu, et ben voilà, n'hésitez pas vraiment à soumettre des titres que j'aurais pu oublier, ou simplement ne pas connaître, hein, puisque malheureusement, je ne connais pas tout. Même si d'un côté, c'est très sympa de pas tout connaître, on a toujours des bonnes découvertes, mais c'est plus facile pour remplir le conducteur pour ces émissions, évidemment. On se retrouvera le mois prochain pour un autre Rock City, courant du mois de mars, avec la deuxième partie de notre suite, si on peut dire, mythologique. On explorera cette fois-ci une autre mythologie, puisque la première partie s'adressait à la Grèce, et bien on va regarder comment le métal traite les autres mythologies. Peut-être la mythologie égyptienne, c'est celui sur lequel j'ai le plus avancé, je me garderai la plus facile, la mythologie nordique, pour la fin de cette suite mythologique. Donc ce sera au courant du mois de mars, j'ai pas encore arrêté la date, puisque le Rock City n'est pas encore complètement arrêté, mais voilà, je vous tiendrai au courant, évidemment, des prochaines sorties. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, vous retrouvez les autres émissions, notamment le Comics Weekly, chaque semaine, le jeudi soir en direct, et puis ensuite sur le site en replay, tout simplement. Pour ce soir, on va finir avec un morceau assez pareil, un gros classique que vous avez tous entendu au moins une fois. Un morceau assez happy, hein, histoire de finir sur une note positive, ne pas rester que dans le sombre et dans le triste. On va parler de Ugly Kid Joe. Voilà, un groupe pareil, milieu des débuts des années 90 pour sa création, un groupe un peu post dans l'air grunge, post grunge. Et bah, c'est un morceau qui date de leur premier EP, hein, tout simplement, qui s'appelait Ugly as Ugly as They Wanna Be, qui était sorti en 91, et c'est directement le gros succès, le gros carton avec ce morceau Everything About You, bah, qui nous parle de comment quelqu'un aime, déteste, pardon, tout chez sa meuf, hein, tout simplement, il est tout. Mais vraiment, il y a pas une seule chose qu'il aime bien. Petite anecdote, hein, quand même, ce morceau est sur la BO de Wayne's World, ce qui a aussi contribué à les populariser, même si la diffusion du clip, la multi-diffusion du clip d'ailleurs sur MTV dans tous les sens à l'époque, a bien fait connaître le groupe. Un clip qui est vraiment fun, clip qui a été filmé avec $5000 de budget, donc vraiment que dalle, dont la majorité est passée dans les poupées gonflables qu'ils utilisent comme cerf-volant durant le clip. Hein, je vous encourage à aller le voir pour vous rendre compte du truc. Le clip est filmé sur la plage, à la cool. Les petites anecdotes derrière ce clip sont d'ailleurs que sur des rochers pas loin, t'avais tous les potes des membres du groupe qui les mataient, qui se foutaient de leur gueule pendant qu'ils faisaient les différentes prises. Et la petite question qui n'a jamais été répondue, c'est que les chiens que l'on voit dans le clip, eh bien, ils étaient juste là en fait. C'était pas forcément les chiens des membres du groupe. Et on ne sait pas si les chiens ont bien signé une autorisation de droit à l'image. Ça reste en suspens. J'ai envie de dire un peu tout le monde s'en fout, mais aux États-Unis ils sont tellement procéduriers que c'est important pour eux. Voilà, donc ce petit morceau Everything About You pour conclure cette soirée, histoire de finir sur une note très positive. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de soirée.
say I got a bad attitude, but that don't change the way I feel about you. And if you think this might be bringing me down,